Ça fait 3 ou 4 semaines, je crois, qu'on avait lu ce chapitre dans son entier. Donc on ne va pas le relire aujourd'hui, mais je veux retourner à ce message, une série de 3 messages un peu différents que normalement, au lieu de regarder un texte et de le prendre petit à petit, nous allons regarder le texte et le chapitre dans son entier et puis tirer des vérités pour notre Église aujourd'hui et pour le travail du Seigneur aujourd'hui. Donc ça fait 3 ou même 4 semaines depuis qu'on n'y est pas en Actes chapitre 16, mais je veux que nous le regardions encore ce matin. Nous avons vu quelques marques essentielles pour une croissance d'une œuvre, de n'importe quel travail de Dieu. Ben, vous allez vous rappeler qu'on avait discuté la nécessité de la soumission d'abord à l'autorité du Saint-Esprit, et puis la nécessité d'évangéliser, comme le dit c'est Romains 10 qui dit « Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Nous avons vu ces 2 premières marques essentielles, ou ingrédients essentiels, si vous voulez, à la croissance de n'importe quel travail de Dieu. C'est premièrement la soumission à l'autorité du Saint-Esprit, et puis, en deuxième cas, la proclamation humaine. On a discuté ça, on a vu en Actes, partout en Actes, qu'il n'y a que 3 exemples de parler en langue en Actes, mais il y a plus de 60 exemples de la proclamation ou de l'évangélisation de la parole de Dieu. Donc ça parle de la proclamation humaine de la parole de Dieu. Ce sont des marques essentielles, des ingrédients essentiels pour la croissance d'une œuvre de Dieu. Mais il y a un 3e ingrédient, et c'est un pour lequel nous n'avons vraiment pas besoin de même regarder l'Écriture. Parce que je crois que c'est connu par chaque chrétien, sans qu'on lui apprenne, c'est connu dans son cœur. Et voilà ce que je veux dire. Je crois que chacun ici sait que la proclamation de l'Évangile en elle-même ne sauvera personne, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous ont eu l'expérience de témoigner à quelqu'un et puis on l'a trouvé complètement indifférent. On aurait pu s'exprimer avec beaucoup de ferveur. On aurait pu parler des promesses de Dieu, les avertir des dangers, s'y rejeter la parole de Dieu. Et puis on a vu à la fin qu'il restait sans changer, que ça avait l'air même pas de les toucher. Et alors dans une telle situation, quelle est la réponse instinctive du chrétien? Il se tourne vers Dieu dans la quoi? Dans la prière. Il se met à prier. Il dit « Ô Seigneur, aide !» « Ô Seigneur, agis, ô Seigneur, change le cœur de cette personne. » Et c'est pourquoi je dis que ce 3e ingrédient essentiel à la croissance d'un travail de Dieu est instinctivement identifié et reconnu par chaque chrétien. C'est parce que chaque chrétien sait que la proclamation humaine en elle-même ne changera personne. Il a besoin de Dieu. Et donc, tandis que les 2 premiers ingrédients essentiels à la croissance d'un travail de Dieu sans la soumission humaine et la proclamation humaine. Le 3e, je veux le considérer ce matin, c'est l'intervention divine. On a besoin de Dieu. Et j'emploie ce terme intervention divine intentionnellement parce que c'est exactement ce qu'il faut pour l'avancement de l'Église de Dieu. Il faut que Dieu intervienne divinement dans les affaires d'humains, dans nos affaires, dans nos jours, dans ces circonstances. Je veux vous montrer comment ceci est indiqué dans notre texte, Actes 16. Bon, on ne va pas tout lire encore, parce que ça prendra trop longtemps, mais vous vous rappelez que Paul et Silas se retrouvent à Philippe, et puis le jour du sabbat, ils se sont approchés près de la rivière. Il y avait un fleuve qui passait. Il y avait des femmes qui étaient réunies et ils sont approchés vers les femmes et ils ont témoigné de Jésus-Christ comme étant le Messie, le Sauveur du monde. Alors, sans intervention divine, l'histoire aurait terminé là. Sans aucun converti, sans aucune église établie, sans aucun avancement du royaume de Dieu, mais il y a une intervention divine. Regardez comment Luc le raconte. C'est Actes 16 et c'est verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Alors, n'est-ce pas une belle expression? Le Seigneur lui ouvrit le cœur. C'est comme si on regardait un film, il y avait beaucoup d'action, des effets superbes, une belle bande sonore, et puis on arrive à la fin, et vous montre le générique. Voici ceux qui ont travaillé pour produire, pour créer ce film. Alors, si vous auriez été là ce jour-là, vous aurez vu les femmes regroupées, vous aurez vu l'équipe missionnaire, vous aurez pu écouter Paul qui prêchait, vous aurez vu la femme qui se convertissait et puis qui était baptisée. Mais vous n'aurez jamais su ceci si Luc n'aurait pas ajouté le générique pour ainsi parler, pour indiquer que c'était le Seigneur qui est descendu pour ouvrir le cœur de cette dame. Alors c'est ce que j'appelle l'intervention divine. C'est Dieu qui intervient souverainement. Et il n'y a aucune croissance d'aucun travail de Dieu sans cette intervention divine. Alors si vous voyez une croissance d'un œuvre sans l'intervention divine, c'est que ce n'est pas un travail de Dieu, n'est-ce pas? Parce que la phrase même, travail de Dieu, implique que c'est un travail qui non seulement appartient à Dieu, mais qui est produit par Dieu. C'est son œuvre, c'est son travail, c'est son œuvre. Alors cette intervention divine n'est pas limitée au chapitre 16. Tout comme on a vu que le récit entier des Actes est rempli d'évangélisation, parce que c'est une marque essentielle pour la croissance d'une œuvre de Dieu, eh bien je veux vous démontrer aujourd'hui que le livre des Actes, dans son ensemble, est vraiment ça. C'est vraiment un récit du travail de Christ pour le bien-être de son Église. Ou, pour utiliser le terme qu'on a déjà utilisé avant, le récit des Actes est d'une part le récit de la proclamation humaine, et de l'autre part, c'est un récit de l'intervention divine. Il y a ces deux choses en Actes. Et je veux vous montrer ce que je veux dire. Et je veux commencer ici, avec le titre même du livre. Donc, tournez au premier chapitre, chapitre 1, chapitre 1 des Actes. Et quel est le nom de ce livre? Quel est le nom de ce livre? Actes, n'est-ce pas? Un synonyme pour acte, c'est action. Ainsi, nous étudions aujourd'hui le chapitre 16 des actions. D'accord? Et donc la question se pose naturellement, si on dit des actions, on veut poser la question des actions de qui? N'est-ce pas? C'est les actions de qui? Les actes de qui? Eh bien, quel titre avez-vous dans votre Bible? Probablement vous avez ça, les actions ou les actes de qui? Des apôtres. Bon, je propose qu'il y ait un meilleur titre que nous pourrions donner à ce livre. Alors vous dites, c'est de l'hérésie, hein? Il veut changer le titre d'un livre de la Bible. Bon, avant de me stigmatiser en tant qu'hérétique, laissez-moi vous dire que les titres des livres ne sont pas inspirés. Ils ont été ajoutés longtemps après le livre a été même écrit. Et pour cette raison, quand vous regardez une Bible dans une traduction étrangère, vous allez voir qu'il y a des titres différents qui n'existent pas dans nos Bibles françaises. Par exemple, le Cantique des Cantiques est intitulé le Cantique de Salomon en anglais. Ou dans la Bible allemande, il n'y a pas de Genèse, vous savez ça? Il n'y a pas d'Exode, il n'y a pas de Lévitique, il n'y a pas de Nombre, il n'y a même pas de Deutéronome. Dans la Bible allemande, il y a le premier livre de Moïse, le deuxième livre de Moïse, le troisième livre de Moïse, le quatrième livre de Moïse, le cinquième livre de Moïse. Dans ma Bible anglaise, je n'ai pas d'Apocalypse. Dans sa place, j'ai la Révélation de Jean. Donc tout ça pour dire que les Actes des Apôtres, ce titre n'est pas un titre inspiré. Et j'estime qu'il y a un meilleur titre à choisir, à donner à ce livre. Et je crois que l'écriture est de mon côté, ok, dans ce débat, si vous voulez l'appeler un débat. Et je vais vous donner dans un instant un meilleur titre, et j'ai trois raisons de suggérer un nouveau titre aux Actes des Apôtres. D'abord, il est suggéré par l'auteur lui-même, qui est Luc, puis il est énoncé par Christ, et puis il est illustré partout dans le livre. Donc, premièrement, tout d'abord, ce meilleur titre est suggéré par l'auteur, qui est Luc. Vous êtes déjà au chapitre 1 des Actes. Regardez la première partie de ce premier verset. Théophile, donc il écrit à Théophile, voyez ça, acte 1, verset 1. J'ai parlé dans mon premier livre. Dans mon premier livre. Alors, quel était ce premier livre que Luc a écrit? C'était bien sûr l'évangile de Luc. Vous êtes bien intelligent. Et ce que Luc dit dans son premier chapitre de son évangile, vous n'avez pas à le chercher, je vais mettre ici sur l'écran, il dit « Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. » Excellent, Théophile. Vous voyez, il écrit encore à Théophile dans les deux cas. Donc l'évangile de Luc et le livre des Actes sont intimement reliés l'un à l'autre, écrits par le même auteur, adressés au même individu. Et alors, l'évangile de Luc termine comment? Il termine dans cette façon, écoutez, tandis que je lis chapitre 24 et verset 50 et suivant, « Il les conduisait jusque vers Béthanie, ça part de Jésus, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. » Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Donc l'évangile de Luc termine ici, avec Jésus-Christ étant enlevé au ciel. Donc voilà la fin du volume 1 des Écritures de Luc. Donc regardez maintenant le commencement du volume 2, qui est Actes chapitre 1, verset 1, que vous avez devant vous. Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Vous voyez, c'est là où Luc est arrêté dans son évangile. Au jour que Jésus-Christ fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Alors, nous venons de voir que l'évangile de Luc termine avec Jésus étant enlevé au ciel, mais comment Luc résume-t-il la totalité du ministère terrestre de Jésus-Christ qui s'est terminé avec son ascension? L'avez-vous remarqué? Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, alors l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus a, et quel est le prochain mot? Qu'est-ce que c'est? Commencer de faire et commencer d'enseigner. Dans d'autres termes, Jésus n'avait pas terminé de faire et d'enseigner, il avait que commencé de faire et d'enseigner, son travail avait que commencé. Alors, qu'est-ce que Luc suggère-t-il à Théophile? Quand il commence maintenant son deuxième volume, j'ai parlé dans le premier volume de tout ce que Jésus a commencé à faire, et maintenant je vais vous raconter la suite. N'est-ce pas? Je vais vous raconter la suite. Il suggère que Actes va se concerner de ce que Jésus a continué de faire et d'enseigner. Et donc voici le titre que je propose au lieu des Actes des apôtres qu'on appelle les Actes de Jésus-Christ. Et nous pourrions ajouter par l'intermédiaire de ces apôtres, bien sûr. Actes nous raconte sans doute les actes des apôtres, surtout Pierre dans la première partie et Paul dans la seconde partie. Mais au-dessus de cela et au-delà de tous ces actes humains, ce récit est préoccupé avec les actes de Jésus-Christ pour son Église. Donc, ma première raison d'appeler actes les actes de Jésus-Christ, c'est qu'il est suggéré par l'auteur dans le verset que nous venons de lire. Que c'est ce que Jésus maintenant continue à faire, Jésus surtout continue à faire. Puis ma deuxième raison, c'est qu'il est énoncé par Christ. Rappelez-vous que le livre des Actes nous raconte, c'est un récit des 30 premières années de l'histoire de l'Église. De l'Église. Ainsi, le livre des Actes a pour sujet la croissance, ou on va dire ça, la construction, c'est une image qu'on va voir tout à l'heure, La construction de l'Église. Ça parle de l'Église, la croissance de l'Église. Alors, selon ce que Christ a dit lui-même, qui allait construire, qui allait bâtir cette Église? En Matthieu 16, nous l'avons lu tout à l'heure. Christ a dit quoi? Il a dit, je bâtirai mon Église. N'est-ce pas? C'est sa promesse. Je bâtirai mon Église. Ainsi, si le récit des Actes est un récit de la croissance ou de la construction de l'Église, et si c'est Christ qui a dit que c'est lui-même qui va la bâtir, donc par conséquent, le titre des Actes de Jésus-Christ est le meilleur titre, parce que c'est un récit de ce que Christ a fait en bâtissant son Église. Il y a maintenant une troisième raison de voir le thème des Actes comme étant l'intervention divine, ou Christ agissant, si vous voulez. Non seulement était suggéré par l'auteur, et puis indiqué par Christ, mais le livre est plein d'exemples, est rempli d'exemples. Quand vous lisez Actes, Luc vous ne laisse pas manquer le fait que c'est Christ qui fait croître l'Église. Pas Pierre, non, c'est pas Paul, c'est pas Barnabas, ce ne sont pas les apôtres, c'est Christ qui fait croître l'Église. Bon, prenons simplement un prélèvement de ces exemples. Par exemple, Actes 2, je vais vous lire ces versets. Acte 2, verset 47. Le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. Vous voyez? Le Seigneur ajoutait à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. Acte 8, verset 39. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'unique ne le vit plus. C'est l'Esprit du Seigneur qui intervient là encore. Si vous pouvez chercher le chapitre 9, ça serait bien de regarder ça ensemble. Actes chapitre 9, là vous verrez une intervention dramatique et personnelle de Christ. Quand il a ajouté à l'église dans le chapitre 2, il est dans les coulisses. Vous aurez pu le rater. Vous aurez pu attribuer la croissance de l'église à d'autres causes. Mais ici, il est en plein centre de la scène, hein, sous les feux de la rampe même. Il n'y a aucune confusion cette fois que c'est Jésus-Christ qui intervient lui-même personnellement et dans ce cas-ci avec éclat même pour faire croître son Église. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, Saul est sur la route de Damas. Il est rempli de la haine dans son cœur pour Jésus de Nazareth. La Bible dit, vous verrez ça dans le verset 3, qu'il respirait même encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, quand, paf, sans prémonition, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, verset 4, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et Paul répondit, ou Saul répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis qui ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Alors ça, si ce n'est pas une intervention divine, je ne sais pas ce qui est. Il y a d'autres exemples. En Actes chapitre 11, il nous est dit, verset 21, que la main du Seigneur était avec eux. La main du Seigneur. Bien sûr, c'est une image, mais c'est la main du Seigneur qui était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur à cause de la main du Seigneur. En Acte 12, vous avez le Seigneur qui intervient encore d'un sens dramatique pour sauver Pierre de la mort, pour lui libérer du prison. Et Pierre raconte à ses frères et sœurs en Christ dans le verset 17, il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Oui, il avait utilisé un ange, mais c'est le Seigneur qui lui avait tiré de la prison. Vous voyez, c'est encore le Seigneur qui agisse. Dans chapitre 13, verset 47, il nous est dit, « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est le Seigneur qui l'a ordonné, c'est le Seigneur qui a établi Paul. C'est lui qui a choisi Paul et pas un autre. Et puis, verset 48 de ce même chapitre, les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Vous entendez ces paroles? Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ces personnes étaient destinées à la vie éternelle, pas par l'homme, mais par le Seigneur. Et puis, pour retourner au chapitre 16, où nous sommes, verset 10, « Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. » Le Seigneur nous appelle à y annoncer la bonne nouvelle dans cet endroit. Donc, vous avez le Seigneur ajoutant à l'Église, transportant Philippe, apparaissant personnellement à Paul et le transformant, la main du Seigneur étant avec ses disciples, faisant croire un grand nombre de personnes en Samarie, le Seigneur livrant Pierre de la prison, le Seigneur destinant à la vie éternelle, le Seigneur réorientant et appelant ses serviteurs à un endroit spécifique, et le Seigneur encourageant personnellement les serviteurs dans son travail, dans leur travail. Alors, et ce n'est que quelques exemples. Donc ce récit, ce livre est un récit des actions de Jésus-Christ pour son Église. Quelqu'un a sagement dit que le livre des actes ne termine pas. Le récit ne continue pas, tout simplement. Les actes de Jésus-Christ ne terminent pas, c'est simplement le récit qui s'arrête. Parce que les actes continuent. Et tout comme c'était Jésus-Christ qui bâtissait son Église dans ces jours-là, vous savez, de même, aujourd'hui, c'est le Seigneur qui bâtit toujours son Église. Et si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, dit Psaume 127. Donc, nous avons vu que c'est le Seigneur qui intervient. Et je crois qu'il y a au moins trois manières par lesquelles nous voyons le Seigneur en train d'intervenir souverainement dans l'établissement de cette Église à Philippe. Nous allons concentrer maintenant sur le chapitre 16 pour vous démontrer, pas seulement dans le livre des Actes, mais dans cette histoire, que le Seigneur agisse et travaille. D'abord, nous voyons le Seigneur diriger souverainement les pas de ses serviteurs. Verset 6 au 10. Nous venons de lire verset 10. Nous avons observé ça la fois dernière quand nous avons souligné leur soumission au contrôle du Saint-Esprit. Donc on n'a pas vraiment besoin d'y en parler plus. Mais deuxièmement, nous voyons dans la conversion de Lydie et sa famille, et le geôlier et sa famille, le Seigneur souverainement en train d'ajouter à son Église. Et j'emploie l'adjectif souverainement parce que tout ce que le Seigneur fait, il ne fait pas par contrainte, mais il le fait souverainement. C'est le Seigneur, on a lu dans ce chapitre, qui ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. C'est Christ, comme c'est dit tout simplement en Actes chapitre 2, verset 47, qui ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. Donc c'est Christ, pensez à ceci, hein, parce que c'est difficile à accepter, pour certains croyants même, le fait que c'est Christ qui ajoute souverainement à son Église. Il y a un verset parallèle, et tellement connu que je ne vous ferai même pas tourner, mais dans l'Apocalypse chapitre 3, où Christ adresse les membres de son Église, et c'est un verset parallèle parce que comme Actes chapitre 16 verset 14 qui parle du cœur de Lydie qui s'ouvre, ça parle de l'ouverture du cœur si vous voulez, de même Apocalypse chapitre 3 verset 20 parle de l'ouverture du cœur. Voici ce que Christ dit en Apocalypse chapitre 3. Voici, je me tiens à la porte. Je crois que nous sommes tous d'accord que la porte ici parle de la porte du cœur. Je me tiens à la porte du cœur et je frappe. Si, et quel est le prochain mot? Si quelqu'un, un homme, une femme, un enfant, si quelqu'un entend ma voix et quoi? Et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si quelque homme entend ma voix, si cet homme ou cette femme ouvre ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, l'Écriture indique en Actes chapitre 16, verset 14, que c'est Christ qui ouvre le cœur, et puis en Apocalypse chapitre 3, que c'est l'homme qui ouvre le cœur. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre ça? C'est Christ qui ouvre le cœur? Ou est-ce que c'est l'homme qui ouvre le cœur? Pensez à la problème, parce que sinon vous ne serez pas intéressé par la réponse. Bon, voici une possibilité. On pourrait dire que parfois celui-ci est vrai, parfois l'autre est vrai. Ça dépend. Mais ça ne marchera jamais, n'est-ce pas? Voici une autre possibilité. Nous allons tous choisir le verset que nous aimions le mieux. Et puis nous expliquerons l'autre dans la lumière de celle de notre choix. Hein, donc vous choisissez celui que vous êtes prédisposé à aimer. Et puis vous insistez que nous ne pouvons tirer aucune conclusion de l'autre. C'est ce que font beaucoup de chrétiens quand il y a des discussions comme celle-ci. Mais voici une idée originale. Prenons-les tous les deux en tant que vérité absolue, et puis comparons-nous dans la lumière du conseil entier de Dieu. J'espère que vous aimez la tension théologique, parce que la Bible en est pleine de ces tensions. J'ai appris à les apprécier. Dieu est un, pourtant Dieu est trois. L'homme a écrit l'Écriture, la Bible, pourtant c'est Dieu qui a écrit l'Écriture. Jésus est Dieu, pourtant Jésus est homme. Et ici, Dieu ouvre le cœur, pourtant l'homme ouvre le cœur. Pour nous aider, je pense que le prédicateur Jonathan Edwards, qui a vécu il y a plus de 200 ans, a bien résumé cette tension quand il a dit ceci. Nous ne sommes pas simplement passifs. Pourtant, il ne faut pas le penser ainsi non plus. Dieu ne fait pas une part et nous faisons le reste. C'est pas comme ça. Mais Dieu fait tout. Et nous faisons tout. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Il va expliquer. Dieu produit tout et nous agissons tout. Car c'est cela qu'il produit, c'est-à-dire nos propres actions. Ce que Dieu produit, ce sont nos actions. Donc, il produit tout, nous agissons tout. Dieu seul est l'auteur et la fontaine, nous seuls sommes les acteurs. Nous sommes, dans différents aspects, complètement passifs et complètement actifs. Et puis continue, il dit, dans les Écritures, les mêmes choses sont représentées comme venant de Dieu et de nous. Il donne quelques exemples. On dit que Dieu convertit dans 2 Timothée 2, et on dit que les hommes se convertissent et se tournent. On dit que Dieu donne un cœur nouveau. On dit que nous sommes commandés de nous faire un nouveau cœur. La Bible dit que c'est Dieu qui circoncit le cœur. Et nous sommes commandés à circoncire nos propres cœurs. Vous voyez la tension? Ces choses sont agréables à ce texte qui vient de Philippiens chapitre 2. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous voyez? Dieu produit le faire. C'est vous qui faites le faire, c'est Dieu qui produit le faire en vous. Et le désir, selon son bon plaisir. Donc Dieu fait tout parce qu'il produit tout. Nous faisons tout parce que nous agissons tout. Il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et c'est pourquoi ce même prédicateur, Edwards, il plaidait avec ferveur même avec ceux qui l'entendaient, qu'ils se soumettent à la parole de Dieu, qu'ils obéissent à la parole de Dieu pour être sauvés. Par exemple, ceci, maintenant, si vous avez le moindre intérêt à votre propre salut et n'avez pas un désir d'aller en enfer, profitez de ce moment. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. N'endurcissez pas vos cœurs un jour comme celui-ci. Et je joindrai Edwards en affirmant la même appel à ceux qui sont inconvertis ce matin. Venez aujourd'hui au Seigneur. Et donc ce qu'on a en Apocalypse, nous avons cet appel aux pécheurs, ouvrez votre cœur. En Actes, nous avons le témoignage donné après le fait, Dieu a ouvert son cœur. Et j'imagine, si vous connaissez le Seigneur, Ça a été probablement le cas dans votre expérience. Quelqu'un est venu vers vous, vous a supplié de vous ouvrir le cœur, de venir à Dieu, de lui chercher, de vous tourner de vos péchés vers lui. Mais après que vous avez été sauvé et vous avez eu l'occasion de donner votre témoignage, vous avez très probablement dit, sans que personne vous instruise à le dire, vous savez, c'est le Seigneur qui a travaillé dans mon cœur. C'est le Seigneur qui me cherchait. C'est lui qui m'a sauvé. À lui soit la gloire. C'est pas que j'étais plus intelligent que quelqu'un d'autre, c'est grâce au Seigneur. Et je lui donne toute la gloire. Vous voyez? C'est exactement ça. Le Seigneur produit tout. Nous agissons tout. Et la vérité est que si le Seigneur n'avait pas agi dans le cœur et n'avait pas ouvert ce cœur à l'évangile, la vérité c'est qu'il n'y aurait pas eu un Lydie converti. Et c'est le même dans notre cas. Nous avons tous une volonté, n'est-ce pas ? Romains 3 nous dit que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Donc nous avons tous eu une volonté, c'est sûr, mais elle était obstinément antagoniste à Dieu. Et Dieu a dû intervenir pour changer même nos désirs. Et puis il y a une troisième manière dont nous voyons que le Seigneur intervient souverainement dans l'établissement de cette église à Philippe. C'est que non seulement il dirigeait souverainement ses serviteurs et ajoutait souverainement à son église, mais il protégeait souverainement son église. Nous voyons la protection de Dieu en acte 16. Encore, on ne va pas pouvoir lire l'histoire, mais vous vous rappelez que Paul et Silas ont été battus injustement et puis ils ont été jetés dans la prison sans procès. Et puis le lendemain, les fonctionnaires de la ville sont venus, ils ont envoyé un mot pour dire que le geôlier devait relâcher Paul et puis de le chasser de la ville, qu'il devait quitter la ville tout de suite. Mais Paul ne voulait rien voir avec ça. Et notez le verset 37, en Actes chapitre 16, verset 37. « Mais Paul dit au lecteur, après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, c'est-à-dire sans procès, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Ah non, non, il ne sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Et puis là, les fonctionnaires de la ville qui les avaient battus le jour avant, les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés. En apprenant qu'ils étaient romains, ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Et quand ils furent sortis de la prison, ils n'ont pas tout de suite quitté la ville, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. C'est vraiment intéressant, même amusant, de voir que Dieu utilise cet emprisonnement pour renverser les rôles politiques de cette église nouveau-née. Parce que désormais les magistrats surveillant cette église ne pouvaient plus la voir comme quelque chose de bizarre, fondé par un homme inconnu, un certain juif qui faisait que provoquer le trouble. Ah non, 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 ils savaient qu'ils étaient citoyens romains. Et en plus, ils étaient maintenant d'une manière étrange, c'est vrai, mais ils étaient réellement endettés à Paul. Parce qu'ils avaient commis un acte criminel contre Paul. Parce qu'ils les avaient battus et les avaient emprisonnés sans procès, même qu'ils étaient romains. Et dans leurs esprits, ils savaient que si Paul réclamait d'eux des dommages intérêts, ils seraient dans un tas d'ennuis. Ils auraient pu perdre leur travail, leur position, peut-être même leur liberté. Et donc, ils avaient l'intérêt de tout faire pour apaiser Paul et pour s'assurer qu'ils avaient une base juridique pour tous les futurs rapports avec cette église. Maintenant, ils ne pouvaient que le prier de partir, vous voyez ça? Que le prier de le partir de la ville, ils ne pouvaient pas le forcer. Mais Paul, il prend son temps, il retourne chez Lydie pour saluer, soulager les frères avant de partir. Donc, sans doute, l'église de Philippe allait connaître la persécution. Il en parle dans la lettre aux Philippiens. Mais le droit et la position légale de l'église face au gouvernement romain a été fermement fondée et établie par cette épreuve d'emprisonnement que Paul et Silas ont eue. Voyez le bien-être que Dieu a amené à travers cette souffrance. C'est une manière intéressante pour que Dieu protège son Église, hein. Mais vraiment, Dieu travaille dans des façons et dans des manières mystérieuses. Dieu protège son Église et il tourne toujours des situations destinées à son mal pour son bien. Et il fait le même pour nous aujourd'hui. Nous ne devons pas avoir peur. Le Seigneur peut nous protéger. Alors pour terminer, quelles sont les réponses, les réactions que nous devons avoir à cette intervention divine et souveraine de Dieu dans la croissance de son Église? Juste pour appliquer ce qu'on vient de voir, je crois que la première réponse sera l'humilité. L'humilité. Parce que la gloire nous ne revient pas, n'est-ce pas? La gloire ne nous appartient pas. Un bon verset, c'est le 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 5 qui dit, et c'est Paul qui parle, il dit, « Qui est donc Apollos et qui est Paul ?» Je vais vous le dire, il dit, « Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. » Nous ne sommes que des serviteurs, il y a un Seigneur, et nous faisons ce que nous faisons selon ce que le Seigneur nous a donné. On n'a même pas pu choisir ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait accomplir. C'est lui qui nous l'a donné. Donc il faut de l'humilité. Si Dieu vous donne le succès, s'il y a ceux qui sont sauvés, eh bien à Dieu soit la gloire. Et pas à nous-mêmes. Et puis, en deuxième cas, je crois qu'il faut, être encouragé. Ça nous donne beaucoup d'encouragement. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si c'est Christ qui bâtit son Église, si c'est Christ qui aujourd'hui bâtit son Église, eh bien, même les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Même les portes de l'enfer ne pourront pas le résister, parce que c'est Christ qui bâtit son Église. Regardez Actes chapitre 18, un dernier texte que je voulais que nous lisions. Actes chapitre 18, c'est le Seigneur qui vient, Paul, il est à Corinthe à ce moment. Actes 18, verset 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Vous voyez, puisque le Christ est souverain même dans le salut des hommes, il peut assurer le succès, même le nombre qu'il y aura, beaucoup de gens, un peuple nombreux. Et Paul prend de l'encouragement à cause de la souveraineté de Dieu dans le salut des hommes. La souveraineté de Dieu dans le salut, correctement compris, n'est jamais un obstacle à l'évangélisation. Mais toujours une poussée, un encouragement, parce que c'est l'assurance que les hommes et les femmes seront vraiment sauvés. Dieu l'a promis. Il a dit en Apocalypse chapitre 5 qu'il y aura des gens de toute tribu, de toute langue, de toute race. C'est décidé, c'est confirmé, il le fera. Et donc, nous sommes assurés le succès dans chaque tribu. Dans chaque langue, il y aura ceux qui se tourneront vers le Seigneur. Vous savez, la doctrine mal appliquée, c'est une doctrine mal comprise. Par exemple, nous sommes sauvés par grâce. Bon, c'est pour pécher encore plus. Loin de là, dit le Seigneur. Mais c'est la même chose ici. Si on a mal compris cette doctrine, si on a mal appliqué, c'est qu'on l'a mal compris. Et si le Seigneur Jésus-Christ, imaginez ça, si le Seigneur Jésus-Christ apparaissait un jour ou dans la nuit pour vous dire personnellement, vous savez, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car j'ai un peuple nombreux à Bordeaux. alors vous n'allez pas vous lever pour dire « Ah ben c'est plus ma responsabilité, j'ai plus rien à faire ». Non, tout d'abord vous allez le croire vraiment parce que c'est lui qui vous l'a dit. Et puis en deuxième lieu, vous allez être en train de nous chercher tous pour nous dire « Allons-y, allons-y, le Seigneur nous a garanti le succès ». Vous voyez, c'est ça la réaction à cette puissance du Seigneur. Je pense que nous pouvons tous penser des périodes où nous avons eu une occasion de parler pour le Seigneur, de témoigner du fait que nous connaissons le Seigneur, ou de sa bonté, ou de sa grâce, ou de sa sainteté, mais on s'est tait, on n'a rien dit, on n'a pas parlé. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Et donc notre manque de foi dans la puissance de Dieu nous a fait taire. Mais il faut, mes amis, croire que Dieu peut employer même nos mots faibles, même nos mots faibles, pour sauver des âmes. Et si la connaissance que c'est Dieu qui ouvre les cœurs et qui travaille souverainement dans le salut des hommes ne diminue pas nos craintes, les enlève complètement, et ne détache pas nos langues pour qu'on puisse parler librement de lui, je crois que c'est clair que nous ne comprenons toujours pas correctement cette doctrine. Ne crains point, mais parle, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. La doctrine mal appliquée est une doctrine mal comprise. Et puis la dernière réponse, au contrôle souverain de Dieu sur la croissance de son Église, c'est ce que nous avons mentionné au début, c'est la prière. Il faut prier, mes amis. Parce que si tout dépend de nous, eh bien, oublions la réunion de prière et prenons ce temps pour aller dehors dans les rues, pour tout faire nous-mêmes. Mais le chrétien prie, parce que le chrétien sait que la croissance d'un travail de Dieu dépend de Dieu. Il faut qu'il agisse. Un manque de prière indique un manque de foi dans la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons une réunion de prière ici à l'église, ce mardi soir, parce que nous avons besoin de Dieu. Prions ensemble ce matin. Seigneur, nous savons que tu peux prendre les faibles paroles de cette bouche pour nous édifier tous, pour nous encourager avec le fait que Jésus-Christ bâtit toujours, actuellement, son Église et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous te demandons de nous aider à ne pas agir dans notre propre force et sagesse, mais de se confier dans ta puissance et dans ta présence. Donne-nous, Seigneur, l'humilité. Donne-nous l'encouragement. Amène-nous à prier pour te demander que tu agisses. Et ô Seigneur, nous prions. Nous prions que tu puisses bâtir ton Église, remplir tes églises, sauver les personnes autour de nous, démontrer ta gloire aux inconvertis, amener ceux qui sont sans sauveur au Seigneur et au Sauveur de leur âme. Et faites-le à chacun de nous ici assemblés ce matin. Amen.